Vous écoutez On lit pour vous.
Courir sans perdre la carte. Un texte d'Élise Lécaudé, paru le 9 juillet 2026 dans La Presse. À Gênes, dans le nord de l'Italie, 6 Canadiens parcourent les rues à toutes jambes, boussole et carte en main. Ils participent au championnat du monde de course d'orientation, WOC, une des compétitions les plus prestigieuses de cette discipline, qui rassemble plus d'un millier de sportifs provenant de 45 nations. Emma Waddington, 28 ans, fait partie des athlètes envoyés par la Fédération canadienne de course d'orientation, FCO, à cette compétition biennale qui a lieu du 6 au 11 juillet. « Il fait chaud, c'est sûr », soulignait-elle en riant en entrevue téléphonique avec La Presse le 8 juillet, jour de repos des WOC. Mais tout le monde s'est vraiment bien débrouillé malgré la chaleur et des parcours très exigeants. Sport peu connu du grand public, la course d'orientation consiste à rejoindre les points indiqués sur une carte le plus rapidement possible. La coureuse en est à sa 4e participation au WOC, où le Canada est représenté depuis 1970. Elle a parcouru environ 3 km en 13 minutes 28 secondes lors de la qualification du sprint mardi matin. En après-midi, un autre parcours de 3,6 km lui a pris 20 minutes 13 secondes, ce qui l'a placé à la 33e position sur 46 coureurs. Ça montre la variété de la course d'orientation, où le terrain peut être très difficile et dicter la vitesse de course, observe Emma. Son coéquipier, Isaac Franson, a fini 32e dans sa catégorie mardi, sur 46 coureurs. Ce sont les meilleurs résultats que le Canada ait eus dans cette discipline depuis sa création en 2001. Emma Waddington pratique la course d'orientation depuis l'enfance et représente le Canada avec la FCO dans de nombreuses compétitions internationales depuis une dizaine d'années. Pour bien réussir dans ce sport, il faut être stratégique et s'adapter au terrain. C'est quelque chose qui vient avec la pratique, gérer ta vitesse et ta navigation. Si tu cours trop vite, tu fais des erreurs. Mais si tu vas trop lentement, alors tu aurais pu pousser plus fort, explique Emma Waddington. Comment ça fonctionne? Les participants découvrent leur carte au signal de départ. On y trouve une série de points de contrôle. L'objectif est essentiellement de les parcourir tous, dans l'ordre indiqué, en déterminant son propre trajet pour se rendre à l'arrivée le plus vite possible. Je pense que c'est de là que vient l'aventure, parce que le chrono tourne, tu ne peux pas planifier, explique-t-elle. Tu es projeté directement dans la course sans grande préparation, ce qui peut être stressant, mais c'est aussi très excitant. Les participants portent un petit appareil de chronométrage qu'ils balayent au-dessus des points de contrôle. Après coup, tu peux comparer le temps que tu as mis entre chacun, explique-t-elle. On porte aussi un traceur GPS sur le dos, donc on peut regarder où exactement on est allé sur la carte et où exactement on s'est peut-être trompé. Un sport pour la vie. Pour Emma, ce sport est bien plus qu'une simple course. C'est le défi mental qui s'ajoute à la composante physique qui est le plus gratifiant. Chercheuse en kinésiologie, elle s'est beaucoup intéressée aux bienfaits cognitifs de la course d'orientation. En 2024, elle a notamment réalisé une étude sur ses effets sur le cerveau. On a vu que ceux qui ont pratiqué la course d'orientation à un niveau supérieur, indépendamment de leur âge ou de leur niveau d'activité physique, avaient des capacités de cognition spatiale plus enviables. Ces capacités, on les voit normalement décliner avec l'âge. Selon ces observations, il n'est pas rare de voir des octogénaires sur les parcours, adaptant leur rythme à leurs capacités physiques. L'aspect intergénérationnel de ce sport est vraiment unique, estime-t-elle. Ça vaut le coup de regarder s'il y a un club local qui propose des entraînements et des événements, plaide la coureuse. Je pense qu'il y a toujours quelque chose pour tout le monde dans ce sport. Sur le plan récréatif, la course d'orientation n'exige pas nécessairement de grands efforts physiques. Une personne n'est pas friande de course? Pas de problème. Ce sport peut se pratiquer en famille, au rythme le plus confortable pour les participants. Que ce soit en marchant, à vélo ou même en ski, l'orientation peut prendre plusieurs formes et plusieurs vitesses. Avec la course d'orientation, Emma Waddington a parcouru le monde, financée par les campagnes de la FCO ou par ses propres moyens. Au Canada, on développe beaucoup de superathlètes grâce à différents programmes à travers le pays. On a de grands objectifs en tant que nation. On est en voie d'en atteindre plusieurs, comme faire partie du top 15 des pays aux championnats du monde. Elle observe que de plus en plus de pays parviennent à se tailler une place dans ce sport, dominé par les pays scandinaves et la Suisse. La course d'orientation au Québec. Au Québec, plusieurs organisations proposent des activités de course d'orientation. Le club d'orientation Rambler organise des événements pour petits et grands à longueur d'année dans le Grand Montréal. Le samedi 11 juillet, le club organise justement une course pour les débutants et orienteurs de tout niveau au parc Frédéric-Bac, dans le quartier Saint-Michel. La Fédération québécoise de course d'orientation dresse aussi une liste des clubs, des parcours permanents et des rassemblements sportifs dans la province. L'histoire des courses d'orientation. Les premières courses d'orientation remontent aux années 1890, en Norvège et en Suède, dans un cadre militaire. L'activité est devenue un sport organisé pour le grand public en 1919, avec une compétition planifiée par le major suédois Ernst Kilander, inquiet du désintérêt de la jeunesse suédoise envers les sports d'athlétisme. Le sport s'est ensuite répandu à travers l'Europe et s'est popularisé au Canada dans les années 1960. La Fédération canadienne de course d'orientation existe depuis 1967, fondée notamment par l'Association québécoise de course d'orientation. Le premier président de la Fédération était le Montréalais Chris Skeen. Aujourd'hui, l'équipe nationale d'élite de la FCO compte 11 athlètes, dont 3 femmes, et offre de nombreux programmes pour former la jeunesse. C'était « Courir sans perdre la carte », un texte d'Élise Lécaudé paru le 9 juillet 2026 dans La Presse.
La chanson la plus relaxante du monde, un texte de la rédaction paru le 13 décembre 2024 dans Québec Science. Imaginez une musique tellement relaxante qu'elle peut ralentir votre cœur. C'est le pouvoir de la chanson Weightless du groupe Marconi Union. Avez-vous déjà entendu Weightless, sans pesanteur? Du groupe Marconi Union. Cette œuvre est considérée comme la chanson la plus relaxante au monde, et c'est voulu. Elle est le fruit d'une collaboration du groupe de musique avec des thérapeutes spécialisés dans le son. Le but? Créer une musique si apaisante qu'elle peut diminuer le stress des personnes qui l'écoutent. Et ça marche! Comment fonctionne-t-elle? D'abord, son rythme agit comme un métronome apaisant. Il commence à 60 battements par minute, BPM, puis ralentit progressivement jusqu'à 50 BPM, entraînant ton cœur à adopter ce tempo plus calme. Ensuite, les notes de piano, de guitare et les sons inspirés de la méditation sont agencés en une mélodie non répétitive qui crée un effet hypnotique. Ces effets ont même été étudiés par des chercheurs en Angleterre. Lors d'une expérience, des participants devaient résoudre des énigmes stressantes pendant que des capteurs mesuraient leurs réactions physiologiques, rythme cardiaque, fréquence respiratoire et pression artérielle. Résultat, l'écoute du morceau « Weightless » réduit l'anxiété de 65 %. C'est 11 % plus efficace que d'autres musiques relaxantes étudiées allant de Coldplay à Mozart, et même plus efficace qu'un massage ou qu'un bain chaud. Et si on écoutait plus de musique pour prendre soin de notre corps et de notre santé mentale? C'était la chanson la plus relaxante du monde, un texte de la rédaction, paru le 13 décembre 2024 dans Québec Science.
Québec renvoie la balle à Santé Québec en ce qui concerne le transfert au privé des chirurgies en attente. Un texte d'Isabelle Porter, paru le 24 juillet 2026 dans Le Devoir. Le gouvernement du Québec estime avoir fait le nécessaire pour réaliser sa promesse de transférer au privé les patients en attente d'une chirurgie depuis plus d'un an et demande des comptes à Santé Québec. Le Devoir révélait qu'aucun patient en longue attente de chirurgie n'a été transféré au privé cette année, bien que l'ancien gouvernement Legault l'avait promis. Invité à commenter, le cabinet de la ministre de la Santé, Sonia Bélanger, a répondu qu'il avait livré le règlement nécessaire pour que ce soit possible et qu'il revient maintenant à Santé Québec d'en assurer le déploiement. Le cabinet de la ministre ajoute avoir d'ailleurs demandé un état de la situation du dossier à la Société d'État. Le gouvernement de la coalition Avenir Québec s'était engagé à ce que ce service soit offert à compter du printemps dernier. Questionné par Le Devoir sur l'absence de transfert de patients, Santé Québec n'a pas fourni d'explication claire. La Société d'État a d'abord répondu que l'appel d'offres pour sélectionner les cliniques privées capables d'offrir le service n'avait pas été concluant. Elle s'est ensuite ravisée et a indiqué que les propositions qu'elle avait reçues étaient actuellement en analyse. Injustifiable, disent les oppositions. Qualifiant cet échec d'injustifiable dans une vidéo sur la plateforme X, le député libéral André Fortin a soutenu que la CAQ s'était engagée bien avant 2025 à mettre en place cette mesure. Cela remonte à l'époque de l'adoption du projet de loi 15 de Christian Dubé en 2023, a-t-il souligné. Le gouvernement avait indiqué qu'il y avait une garantie de service quand il y avait des délais injustifiables, c'est-à-dire que le gouvernement devait acheminer vers le privé, vers d'autres régions, vers d'autres solutions, les patients qui attendaient depuis trop longtemps. De son côté, le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duhaime, a vu dans la nouvelle la preuve que son parti était le seul à vraiment s'intéresser à une ouverture au privé en santé. La CAQ, équipe Fréchette, nous a toujours menti en matière de privé en santé. À la dernière élection, les caquistes promettaient même deux hôpitaux privés. Cherchez-les pas. C'était juste une autre promesse en l'air pour aller chercher quelques votes à droite. Québec solidaire y voit un autre cafouillage signé la CAQ en santé. Mais contrairement aux conservateurs, les solidaires jugent qu'il ne s'agit pas d'une bonne solution à la base. Il faut plutôt donner au réseau public le personnel et les moyens nécessaires pour soigner le monde, a fait savoir le député Guillaume Clich-Rivard. Enfin, le Parti québécois a noté qu'en créant Santé Québec, le gouvernement a mis sur pied une autre superstructure bureaucratique centralisée, opaque et qui ne livre pas la marchandise. Pire encore, a souligné le député Joël Arsenault sur X, personne n'est imputable de ce qu'une décision gouvernementale soit écartée au moment de la mettre en œuvre sans explication crédible, claire et assumée. C'était Québec renvoie la balle à Santé Québec en ce qui concerne le transfert au privé des chirurgies en attente. Un texte d'Isabelle Porter, paru le 24 juillet 2026 dans Le Devoir.
Un pionnier des droits LGBTQ+ s'éteint. Un texte de Maïté Paradis, paru le 21 juillet 2026 dans La Presse. C'est bien triste de voir partir nos lumières, ces gens qui nous éclairent, laisse tomber le président des Archives gays du Québec, Jacques Prince. Celui-ci se joint à une longue liste de membres de la communauté LGBTQ+, qui pleure la mort de Michael Hendricks, militant des droits de la personne et père du mariage homosexuel au Québec. Michael Hendricks et son conjoint, René Leboeuf, ont gagné une notoriété à l'échelle de la province pour avoir formé le premier couple de même sexe à s'être marié légalement au Québec le 1er avril 2004. Le long combat judiciaire pour la reconnaissance légale de leur union, qui a duré 6 ans, avait attiré une grande attention médiatique et suscité de vives réactions. Le couple, qui était déjà ensemble depuis 30 ans, avait déboursé plus de 300 000 $ en frais juridiques. M. Hendricks souffrait d'une maladie pulmonaire dégénérative et a reçu l'aide médicale à mourir samedi le 18 juillet 2026, entouré de son mari et de ses proches. Citation. Il laisse derrière lui des traces que vont suivre plusieurs générations. Fin de citation, témoigne en entrevue Jacques Prince, qui a travaillé avec Michael Hendricks à plusieurs reprises dans le cadre de collaboration avec Archives gays du Québec, AGQ. Né en 1941 au New Jersey, Michael Hendricks est arrivé au Québec en 1968 pour éviter la conscription lors de la guerre du Vietnam. Il est tombé amoureux de la province, a appris sa langue et s'est joint à ses militants pour faire avancer la cause des droits LGBTQ+. Diverses implications. En 2002, le gouvernement du Québec a créé l'Union civile, autorisant ici les personnes de même sexe à s'unir. Mais Michael Hendricks et René Leboeuf revendiquaient davantage. Ils ont continué leur lutte jusqu'à la légalisation du mariage en 2004. Le Québec avait alors emboîté le pas à l'Ontario et à la Colombie-Britannique, deux provinces qui avaient déjà légalisé le mariage entre deux personnes de même sexe. Leur victoire a ouvert la voie à la légalisation du mariage pour tous à l'échelle du pays en 2005. Ils ont écrit une partie de l'histoire canadienne, affirme Valérie Lapointe, chercheuse à l'Institut de recherche en politique publique, spécialisée en politique fédérale. Citation. La légalisation du mariage gay est un tournant pour les droits humains au Canada. Il y a vraiment un avant et un après. Fin de citation, souligne-t-elle. Bien que cette bataille judiciaire soit inscrite dans les archives, les combats de Michael Hendricks n'ont pas débuté là. Lui et son conjoint se sont impliqués fièrement au cours des années 1990 auprès d'ACT UP Montréal, un collectif luttant contre l'inaction gouvernementale face à la crise du VIH. Un vrai militant des injustices. C'est dans ce contexte que Claudine Metcalfe, alors directrice du Centre communautaire des gays et lesbiennes de Montréal, a fait sa connaissance. Citation. Les gens aimaient ça discuter avec lui parce que c'était une encyclopédie sur deux pattes. Fin de citation, dit-elle, se rappelant aussi un homme, citation, qui ne pouvait pas concevoir que quelqu'un donnait un dictat qui ne respectait pas un autre être humain. Fin de citation. Michael Hendricks a aussi participé à la mise sur pied de diverses organisations, comme le projet « Dire enfin la violence » mené par Claudine Metcalfe, qui luttait contre les violences envers les membres des minorités sexuelles. Il a également cofondé la table de concertation des lesbiennes et des gays du Grand Montréal, devenu aujourd'hui le Conseil québécois LGBTQ. Citation. Ces questions-là, quand elles sont mises sous le tapis, il faut faire du bruit pour créer un intérêt médiatique, souligne Jacques Prince. M. Hendricks a beaucoup travaillé pour les faire connaître du grand public. Fin de citation. Même une fois marié, il utilisait son expérience pour en aider d'autres, comme Stella, un organisme militant pour les droits des travailleuses du sexe. Citation. Il n'y a pas beaucoup d'hommes gays qui prenaient sous leurs bras les travailleuses du sexe, raconte Claudine Metcalfe. Mais c'était un vrai militant des injustices. Fin de citation. C'était un pionnier des droits LGBTQ+, s'éteint. Un texte de Maïté Paradis, paru le 21 juillet 2026 dans La Presse.
J'ai consulté une psychologue du sommeil pour ma fille. Voici ce que j'ai appris. Un texte de Claude Bastien, paru le 25 juin 2026 dans Urbania. Ma fille se couche encore à 22 heures, par contre. Ma fille a 4 ans et se couche à 22 heures. Non, ce n'est pas une faute de frappe. Eh oui, c'est beaucoup plus commun qu'on le pense. Cela dit, le sommeil est tellement important et une source intarissable de friction dans le quotidien de nombreuses familles que la question finit inévitablement par se poser « Quand devrait-on aller chercher de l'aide? » Est-ce que c'est quand chaque minute de nos soirées est dédiée à l'endormissement des enfants? Quand on se réveille plus de 5 fois par nuit depuis 1 an et demi et qu'on est cerné jusqu'au nez? Quand notre grande fille de 4 ans refuse obstinément de dormir dans son lit? Pour mon conjoint et moi, ça a été simple. C'est lorsqu'on s'est dit « Bon là, on n'a vraiment plus de fun. » Quelque chose doit changer. Notre routine du soir était devenue une succession de négociations, de crises, de tentatives d'endormissement et de frustrations qui compromettaient la douceur du cocon familial. C'est en faisant ce constat que j'ai finalement pris mon téléphone pour contacter une clinique spécialisée dans le sommeil des enfants. Après 1 mois sur une liste d'attente, visiblement, nous étions loin d'être les seuls à chercher de l'aide, nous avons finalement obtenu un rendez-vous. Dans une étude menée auprès de plus de 800 familles pour la revue Pediatrics, près de 30% des parents estimaient que leur enfant avait un problème de sommeil. Pourtant, plus de 90% souhaitaient changer au moins un aspect de leur sommeil. Prendre action. C'est donc un mardi matin, à bout de ressources, que nous avons entamé le processus avec une psychologue spécialisée dans le sommeil des enfants. À ce moment-là, nous étions encore loin de nous douter que nous allions devoir nous réveiller à 6h30 du matin pendant les 4 prochaines années, mais j'y reviendrai. D'entrée de jeu, la psychologue nous a prévenus. Avant même de parler d'heures de coucher ou de réveil nocturne, nous allons devoir déconstruire une bonne partie de ce que nous croyons savoir sur le sommeil des enfants. Selon la neuropsychologue Katia Gagnon, spécialisée en sommeil des enfants, une grande partie de la détresse parentale provient des attentes qui entourent le sommeil des tout-petits. Il y a des attentes sociales qui sont irréalistes par rapport à ce qu'un enfant est capable de faire, par rapport à l'indépendance, par rapport à l'autonomie, par rapport à la consolidation du sommeil et à l'heure de son coucher, explique-t-elle. Le comportement attendu, c'est qu'il s'endorme seul, sans suce, sans doudou, sans toutou, sans lait, sans maman, sans rien, dans une bassinette. Or, renchérit-elle, les connaissances actuelles sur le développement de l'enfant, l'attachement, l'allaitement et les mécanismes biologiques du sommeil préconisent plutôt une approche fondée sur les besoins propres à chaque enfant, tout en tenant compte de son stade de développement et du bien-être de sa famille. Le béaba de la biologie du sommeil. Les enfants n'ont pas tous besoin de la même quantité de sommeil, nous explique Katia Gagnon. Entre 3 et 5 ans, la majorité des enfants dorment entre 10 et 13 heures par période de 24 heures. Pendant des mois, nous nous sommes arrachés les cheveux en tentant de coucher notre fille plus tôt. Comme plusieurs parents, nous étions convaincus qu'une enfant de son âge devait s'endormir vers 19 heures ou 20 heures. Or, après avoir tenu un journal de sommeil pendant plusieurs semaines, nous avons compris qu'elle avait besoin d'environ 10h15 de sommeil par jour. En retirant les 2 heures de sieste qu'elle faisait à la garderie, il lui restait un peu plus de 8 heures de sommeil à accumuler la nuit. déclic. Pour la première fois, son heure de coucher tardive cessait d'être un problème à corriger. Elle devenait simplement le reflet de ses besoins biologiques. Nous avons donc arrêté de forcer notre petit oiseau de nuit à se coucher avant qu'elle ne soit réellement somnolente. Aujourd'hui, notre fille se couche souvent en même temps que nous. Les crises et les interminables négociations du soir ont pratiquement disparu. Le compromis. Nous sommes debout à 6h30 tous les matins. Comme le rappelle Katia Gagnon, l'heure du coucher peut varier selon le niveau de fatigue et les heures de sieste accumulées dans la journée, mais l'heure du lever doit demeurer stable. Cette recommandation repose sur un concept central de son approche, la pression du sommeil. Pour simplifier, Katia compare souvent le sommeil à un réservoir. Plus la journée avance, plus ce réservoir se remplit. À l'inverse, les siestes viennent en vider une partie. Donc, au revoir la belle soirée en amoureux quand ton enfant dort 2 heures à la garderie. Et vos soirées dans tout ça? On les passe à danser et bricoler avec notre fille jusqu'à pas d'heure. Je vous l'accorde, ce n'est pas parfait, mais c'est un processus et comme tout processus, il faut être prêt à avoir l'esprit ouvert et à remettre en question plusieurs idées que nous tenons pour acquises. J'aurais aussi aimé conclure en vous disant ils vécurent heureux et ils retrouvèrent leur soirée. Tout est une question de perspective. D'une certaine manière, nous avons retrouvé nos soirées. Elles sont simplement différentes. Elles sont plus douces, plus calmes, moins frustrantes et surtout, elles nous permettent de renforcer le lien avec nos enfants et de créer de précieux souvenirs. De toute façon, on sait bien qu'un jour, notre fille entrera à la maternelle. Son fameux réservoir de sommeil sera enfin suffisamment rempli pour qu'elle nous laisse tranquille en se couchant à 20h30. Rebonjour les émissions de fin de soirée et soirée en amoureux bien méritées. C'était « J'ai consulté une psychologue du sommeil pour ma fille, voici ce que j'ai appris ». Un texte de Claude Bastien, paru le 25 juin 2026 dans Urbania.